Bonsoir. Au fond de promotion de l'industrie, les réformes initiées par l'actuelle direction de l'entreprise sont rejetées par une partie des travailleurs. Ces derniers ont même saisi la justice pour dénoncer notamment les licenciements abusifs et les imputations dommageables dont ils seraient victimes. Quelle analyse faire de cette situation? C'est la question au débat ce soir. Et pour en parler, nous serons avec Calvin Minga, fondeur de pouvoir au FPI et un des révoqués dans le cadre de cette réforme. Calvin Minga, bonsoir.
Bonsoir.
Israël Moutala, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et analyste économique et politique. Bienvenue à Radio Okapi. Et enfin, André Ilali Lukoji, directeur à la supervision des projets au FPI. André Ilali, bonsoir.
Bonsoir, Dola.
Bienvenue à tous dans Dialogue entre Congolais. Radio
Okapi. Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Règlement des comptes ou simple réforme légale d'un service public au fond de promotion de l'industrie. Les réformes initiées par l'actuelle direction de l'entreprise sont rejetées par une partie des travailleurs. Ces derniers ont saisi la justice pour dénoncer notamment les licenciements abusifs et les imputations dommageables dont ils seraient victimes pour le service incriminé. Il ne s'agit pour cette situation aucunement d'un règlement de compte, mais plutôt une réforme dont l'objectif est de redynamiser le FPI et lui permettre d'être encore plus efficace. Signalons que ces réformes qui sont évoquées ici ont provoqué la révocation ou la rétrogradation d'une quarantaine de personnes. Écoutons à ce sujet l'assistant du directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Jean-Claude Kalenga. C'était lundi dernier dans l'émission Parole aux auditeurs de Radio Okapi, présentée par J.R. Lungembo.
Les décisions qui ont été prises sont des décisions tout à fait objectives et des décisions qui sont fondées sur des résolutions, sur les observations et les recommandations de la mission d'enquête parlementaire qui était passée au FPI il y a bientôt, je crois, 2 ans. Cette enquête parlementaire a fait des recommandations. Lesquelles recommandations? La nouvelle équipe dirigée par Patrice Kitebi, quand elle est arrivée, n'a pas voulu les ignorer. Il a pris en compte ces recommandations de l'enquête parlementaire. À son arrivée au FPI, la nouvelle équipe dirigeante a jugé bon de faire un constat, un état des lieux. Et c'est à l'issue de ces ateliers d'état des lieux du FPI, des recommandations ont été formulées. Parce qu'il y a eu plusieurs thématiques sur la gouvernance, la maîtrise des charges, l'évaluation et la gestion des risques, la mobilisation de ressources, l'éthique, etc. Et dans une des thématiques, on trouve la gouvernance. Et c'est là qu'il a été décrié, surtout à la direction de ressources humaines. Il y a eu beaucoup de critiques qui ont été faites sur la gestion hasardeuse des carrières. Il y a aussi des promotions avec des enjambements, des promotions fondées sur le favoritisme. Et les agents ont recommandé à la nouvelle équipe qui est arrivée de vraiment fournir un effort pour appliquer ces résolutions.
Directeur à la supervision des projets au FPI, André Ilali, vous venez d'écouter votre collègue. Que pouvons-nous savoir d'autre sur ces réformes? Sont-elles légales? Ont-elles été honnêtement menées sans esprit de règlement de compte? Prévoyaient-elles des licenciements ou des révocations? Bref, en réalité, il y a ce soir beaucoup de questions à vous poser, André Ilali. Mais commençons d'abord par votre première réaction.
Merci beaucoup, Donna, pour la question. Et je confirme donc la contextualisation qui a été faite par mon collègue. Ce que je voudrais rajouter, ce qui est très important, c'est que le contexte, c'est que le FPI est appelé à vocation à financer le développement. Et comme vous le savez, les recommandations ont montré que nous étions en difficulté. Et le collègue a rappelé qu'il y avait plein de points qui constituaient les écueils de cette réforme, la gouvernance et le personnel. Évidemment, toutes ces thématiques ont eu un seul but. Il faut rester vraiment dans le contexte. C'est de rebooster et relancer l'entreprise. Le constat qui est fait, il ne l'a pas dit, c'est que nous étions dans une situation financière assez dramatique. Nous avons fait nos états des lieux et nous étions en déficit, presque 9 milliards. Et donc, sur le point du personnel, clairement, les états des lieux, les recommandations qui sont reprises dans la feuille de route, stipulent qu'il y avait 3 actions majeures à faire. La première, c'est qu'il fallait revisiter les grades de, des agents. Et la deuxième, c'est qu'il fallait faire le contrôle des titres académiques. Et la troisième, c'est qu'il fallait tenir en compte le renforcement des capacités. Et comme vous le savez, dans une entreprise, la ressource humaine est une ressource très, très, très importante dans le défi que nous avions de remettre l'entreprise d'ici 3 ans dans, au niveau d'une institution INFD aux normes internationales. Et donc, des commissions ont été mises en place qui ont agi avec des critères tout à fait crédibles que nous pouvons exposer si nécessaire et qui a abouti à certaines conclusions dont ces décisions, des titres académiques, des contrôles, des revisitations des grades et même des réformes. Donc voilà un peu en résumé, donc je confirme cette analyse qui a été faite.
Nous allons revenir à vous tout à l'heure, mais l'opinion a quand même du mal à comprendre comment un service de l'État comme le FPI, qui on ne le savait pas, hein, mais finalement on se rend compte que mobilise beaucoup d'argent, vous allez nous dire si c'est juste des allégations qui ont été faites à tort comme ça à ce moment-là, mais vous savez qu'en 2006 ça a éclaté un peu aux yeux de l'opinion, ce qu'on a appelé un peu le scandale du FPI, où on a entendu qu'il y avait des millions prêtés ou donnés carrément à tel groupe de personnes, des demi-millions donnés à d'autres. On citerait par exemple un demi-million donné au Refeco, vous nous direz si ça a été juste des affirmations, presque 300 000 donnés à une université du Kassai, un demi-million donné à des entreprises présentées comme fictives. Comment en est-on arrivé à une situation comme
celle-là? C'est des politiques de financement, c'est des stratégies de financement. Tout ça a été revu au niveau des états des lieux. Et donc, l'enquête parlementaire a révélé les chiffres. Ce n'est pas un secret. On a dit qu'on avait des impayés de l'ordre de 162 millions de dollars. Mmh. Et la recommandation était de tout faire pour récupérer cet argent. Des actions ont été entreprises. Aujourd'hui, Donna, je peux vous dire qu'à la suite de nos états financiers 2017, nous sommes déjà à 148 millions. Donc, et nous nous sommes fixés comme objectif que d'ici 2020, nous puissions récupérer 65 millions. Donc, tout ça entre dans ce cadre-là de ces actions.
Alors, un des écueils qui fait aussi en sorte qu'on puisse ressortir ce dossier aujourd'hui, c'est que des gens ont été licenciés et révoqués. Est-ce que ces réformes, dans leur esprit de départ, prévoyaient-elles des révocations ou des rétrogradations?
On pouvait s'y attendre. Parce que si je prends la première action qui a été menée, les contrôles des titres académiques, ça veut dire que à la suite de ces contrôles, il y a eu des collègues qui ont été dans une situation de faussaire. Et normalement, la loi permet une révocation directe, mais on les a écoutés en commission. Et là, si je puis me référer à ce qui se passe d'actualité aujourd'hui, la même expérience est faite au niveau de la justice. Donc, ça, c'est capital.
Mais peut-on dire qu'une quarantaine de personnes se sont retrouvées sans titre académique prouvé?
Non, ça, c'est le chiffre est un peu, je pense, un peu...
Alors, donnez-nous le vrai chiffre aujourd'hui. Combien de personnes sont concernées dans ce...
Il devrait être autour entre 20 et 30 de cette situation.
Alors, bon, deuxièmement... Combien à peu près ont des problèmes de titres académiques et combien, dans le reste, ont d'autres types de problèmes?
Les autres problèmes. Deuxième problème, je rappelle, parce que... le mémo signale qu'on a engagé plus ou moins 90 personnes, mais à l'arrivée de la nouvelle direction générale...
Il y avait 90 personnes engagées par la nouvelle direction.
Voilà. Il y avait plus ou moins 56 personnes qui étaient des collègues qui étaient en situation de temporaire.
Et au niveau qui existaient déjà avec l'ancienne direction.
Avec l'ancienne direction. Et au niveau de la commission, les décisions étaient prises d'arriver à régulariser ces personnes-là. Malgré qu'il y avait eu une situation à la veille de la remise reprise d'une régularisation assez rapide de 26. Donc on pouvait se dire, bon, on met les agents en congé technique. Non, on a régularisé ces agents et il y a eu 56 personnes engagées et qui ont repris, qui ont des statuts à la date d'engagement et qui ont suivi le cursus avec les 6 mois de probatoire de suivi. et à la, auxquelles, desquelles certains ont été confirmés, d'autres ont été remerciés.
Alors, visiblement, il y a
donc,
eu...
c'est des procédures.
Il y a eu un dysfonctionnement, peut-être de l'équipe sortante, je ne sais pas si vous y étiez à ce moment-là, ou vous venez que d'arriver.
Non, mais... non, je suis là depuis 1998.
Voilà, alors, ancien. Donc vous étiez donc là. Mais, bon, si on est dans une telle situation, la loi voudrait quand même que l'erreur profite aux bénéficiaires. En principe, ils devaient être bénéficiaires.
Sont là. Ils sont là. Les bénéficiaires sont là. Ceux qui ont eu des cotations en dessous de la norme pour respecter les clauses au niveau du contrat de travail, ben, ceux-là, malheureusement, ont été remerciés. Je n'ai pas les chiffres en tête de combien, mais les autres sont devenus des agents FPI tout à fait à temps partiel. Alors, les autres, le surplus, c'est la nouvelle direction qui arrive avec son effectif. Le conseil d'administration, la direction générale avec ses cadres et son personnel d'appoint. Donc voilà, on constitue les 90.
Mais André Ilali, on sait aussi, nous avons des informations sur lesquelles la nouvelle direction a aussi déjà commencé à subventionner des universités et même à subventionner certains ministères. On peut pas se le cacher, nous avons vu des documents officiels qui montrent que le FPI a subventionné notamment le ministère de l'industrie.
Bon, je peux répondre à cette question très clairement. Le FPI finance de trois manières. Nous avons les crédits que tout le monde connaît, qui sont des prêts remboursables. Nous avons la prise de participation et nous avons les subventions. Les subventions ont pour vocation de financer tous les projets structurants avec impact et de faire préviabiliser ou viabiliser les sites de projets. Si je prends un projet comme Simaïco, qui est un projet du gouvernement de la République, piloté par le ministère de l'Industrie, et nous donnons une subvention à l'Office des routes pour réparer le pont sur la rivière Simaïco et de rendre viable jusqu'au site d'exploitation, nous avons fait une subvention. Et je voudrais rappeler que à la suite des décisions qui ont été prises sur le nouvel mode de financement, nous finançons le maître d'ouvrage et il est financé séquentiellement à la suite d'un rapport d'exécution des tâches. Et aujourd'hui, je peux vous confirmer que l'Office des routes, par exemple, dans le cas de Simaïco, a fait son rapport et nous allons continuer le décaissement en fonction du rapport qui a été fait sur terrain. Donc, vous voyez que c'est des projets de préviabilisation, c'est ça notre objectif aujourd'hui.
Calvin Minga, fondé de pouvoir au FPI, à la direction de coordination provinciale, vous êtes parmi les personnes révoquées. Apparemment, en écoutant le FPI, ils ont raison ou pas du tout pour vous?
Bien, merci pour la parole que vous m'accordez. Je remercie d'abord... le directeur Ilali, c'est un des directeurs du FPI que nous respectons, qui a la dignité, mais je suis surpris, je suis déréglé de constater qu'il défend la fausseté, il défend les antivaleurs, il défend les règlements des comptes et autres choses.
Est-ce que vous pouvez nous donner les faits?
Je vous donne
où se trouve la fausseté?
Je commence avec un principe de droit qui dit Nullum crimen nulla poena sine lege, qui veut dire il n'y a pas de sanction sans loi. Il n'y a pas d'infraction sans loi. Quelle que soit la gravité, quelle que soit la bonne foi, vous ne pouvez pas amener ce qui n'est pas infraction devenir infraction. Autrement dit, nous devons nous référer à la loi. D'abord, dommage. J'ai suivi le directeur Jean-Claude hier. Avant-hier, j'ai suivi le directeur Ilali. Aucun directeur ne fait allusion à une base juridique. Une honte pour une grande entreprise. Or, nous savons que dans tous les domaines, nous sommes dans un état de droit. Et dans tous les domaines, la loi est réglementée.
Oui, ça on s'en a compris.
Ça, mais vous le savez, oui, je suis en train d'aller pour vous démontrer.
Oui, mais vous n'aurez pas tout le temps pour vous, pour nous et faire oui, un cours de droit. On aimerait bien, mais
non,
on n'a pas
le temps. Non, je ne vous apprends pas les cours de droit. Oui. J'aimerais que le directeur Ilali et tous les directeurs des FPI...
Alors, le FPI dit qu'ils ont des problèmes financiers et devant cette difficulté, ils se sont retrouvés obligés d'assainir ou de rendre claire la ligne budgétaire.
La question n'a pas sa place parce que s'il fallait assainir, il fallait choisir les gens.
Non, il fallait que la décision soit générale. Je suis devant les problèmes.
Alors, vous êtes une trentaine à être évoqué ou rétrogradé. Où se trouve l'injustice pour
l'injustice
vous?
L'injustice pour à notre niveau. Nous disons que il y a l'FPI a les têtes. Parce que vous avez dit qu'on donne pas les cours de droit. Nous avons la constitution de la République que tout le monde doit se référer. Mais dans l'article 36 qui protège l'emploi et qui qualifie les grades, les salaires, des droits acquis. Alors, je regrette ici que les directeurs ne font même pas allusion à ça. Ça a déjà une anomalie. Nous avons le texte réglementaire de l'entreprise. Il y a la convention collective qui est un accord écrit entre l'employeur et les travailleurs qui doit réglementer les relations. Mais nos directeurs, c'est les grands défauts, les grands problèmes que nous avons déjà au FPI, parce que c'est le sentiment, c'est
alors, la bonne foi. Attends, le directeur dit aussi qu'il y a entre 20 et 30 personnes qui sont concernées par ce problème.
Vous lui avez laissé le temps de parler.
Oui, allez-y.
Laissez-moi le temps de parler parce que je représente tout un groupe. Je représente beaucoup
mais
de gens.
Je vous invite à regarder aussi le compteur.
Ah, hein. Le compteur, oui.
Si vous l'avez
dépassé, ça... Je veux vous dire que nous avons les textes du FPI. L'article 30 du statut du personnel du FPI dit ceci. La direction générale peut donner le grade supérieur à un agent de qui les qualifications professionnelles les justifient. Autrement dit, il y a eu des gens qui ont eu des grades, comme lui-même le directeur, il a lu. Si vous vérifiez son dossier, vous allez comprendre qu'il y a eu, dans cette réforme, il y a les sentiments. Nous avons beaucoup de gens, je ne cite pas pour des raisons d'éthique, qui ont eu des grades. Il y a eu même, nous avons cité dans nos lettres des gens engagés en 92, en 97 déjà, il a 7 grades. 7 grades déjà, il était chef de bureau à 2, gradué, et en 97, elle se retrouve fondée de pouvoir. Vous comprenez que le problème des grades relève du pouvoir discrétionnaire de l'employeur. L'employeur décide, il constate le travail qui a été fait. Parce que je reviens d'abord sur ce qu'ils disent, il y a eu des anomalies. Est-ce qu'ils peuvent reconnaître les mérites de l'ancien comité qui a trouvé que l'FPI c'était une petite entreprise qui n'avait même pas de bâtiment, qui n'avait que 160 agents, et qui a relevé l'FPI jusqu'à 500 agents, qui a créé des agences, qui a construit l'FPI. Si, je sais que le ridicule ne tue pas, parce que quand on ne sait pas reconnaître ça, parce que le travail là, les moyens, où est-ce qu'on trouve? L'FPI trouve les moyens dans la taxe. Il y a eu des agents qui ont fourni des efforts pour qu'on ait des moyens pour construire tous les bâtiments qui font la fierté du FPI aujourd'hui. Mais si on remet en cause tout ça pour parler que des anomalies, on connaît les secrets au Congo, c'est quand on veut imposer sa propre vision, sa propre politique, il faut salir les autres. Mais le ridicule ne tue pas, ça ne me fait pas mal.
Calvin Minga, vous gardez la parole.
Là où il y a les anomalies.
Oui, concluez.
Les anomalies.
Mais vous avez toute la parole.
Je vous ai dit.
Ne vous inquiétez pas, vous avez la parole.
L'ancien comité a conféré des grades. Il a jugé des qualifications professionnelles des gens de l'époque. On a donné des grades. Suivant les lois, les textes de l'entreprise. Comment les nouveaux? Nous avons le principe de l'unicité de services de l'État.
Vous savez que l'opinion ne connaît pas tout ça. Hein?
Oui,
donc,
oui, c'est
soyez
ça le
simple.
Problème. C'est pourquoi nous disons que l'FPI s'est retrouvé devant quelqu'un. Le nouveau comité qui vient. D'abord, je vous montre les anomalies. Ils arrivent, moi qui vous parle. Un dossier de 2015, de août 2015. Ou dans une mission de 4 agents. Je me suis retrouvé seul en commission de discipline. On dit que c'est la décision du direction générale.
Mais ici, donc, aussi, vous parlez pour 20 personnes. Hein, donc,
oui,
ne personnalisez
pas. Non, mais comme je suis là, je dois amener des cas précis.
D'accord.
Parce que je ne peux pas parler des cas de quelqu'un qui est là. J'ai écrit cette lettre qui fait l'objet de ma révocation. J'ai qualifié ça de l'injustice. Nous sommes à 4. Quelle est cette injustice? Vous pouvez m'interpeller celle en commission de discipline. On a qualifié ça, non? Il a fait tout ce qu'ils ont qualifié. Je vous dis. Je peux vous dire aujourd'hui que l'FPI connaît une situation d'injustice, d'acharnement et tout. Parce que je prends le cas de certains agents qui ont été engagés en 2005 au même moment que le directeur Kalinga qui est passé hier. Je le cite parce qu'il est passé, il s'est affiché. Ces agents-là ont eu des grades de sous-directeur et lui a eu des grades de directeur full. Mais on doit revisiter les grades de ceux-là, de 2005, qui n'ont même pas atteint son grade, et on les laisse.
Calvin
Alors,
Minga,
vous comprenez, excusez, La loi dit ceci. L'employeur doit être, doit régler les rapports de tout le monde. Puisque nous disons la décision. La décision a été prise par les directeurs. Et vous vérifiez, ce sont les directeurs qui avaient des problèmes de l'action disciplinaire. Il y a eu des gens qui ont été interpellés, qui avaient des problèmes de disciplinaire. Quand ces aigris-là, ils se retrouvent devant les nouveaux comités. Là où les nouveaux comités ont fauché, c'est quand ils viennent, ils commencent à écouter les directeurs. Et, parce que si l'atelier était un atelier responsable, mais l'ancien comité, le directeur, et directeur de FPI, pourquoi on ne l'a pas invité?
Calvin Minga,
on n'allait pas prêter des intentions au comité.
Permettez-nous de
le
faire une émission.
S'il vous plaît. Parce que vous avez besoin de preuves.
S'il vous plaît, vous allez avoir la parole. L'émission ne s'arrête pas là. Vous allez encore avoir la parole.
Calmez-vous, s'il vous plaît. Parce que nous sommes victimes.
Calmez-vous.
On a beaucoup de doléances. Prenons les cas.
Permettez-nous de faire l'émission. Merci beaucoup. Permettez-nous de faire l'émission.
Je peux conclure, je donne des termes clairs.
S'il vous plaît. Permettez-nous de faire l'émission. Vous aurez la parole.
Ah, ok, merci.
Et s'il vous plaît, regardez que nous sommes quand même quatre à parler.
Oui.
Ne monopolisez pas la parole, s'il vous plaît.
Merci.
Nous comprenons l'émotion. Oui. On est tous des humains. Mais essayons de dominer cette émotion pour faire une émission. Israël Moutala, vous êtes journaliste, mais également analyste économique et politique. Nonobstant, l'émotion qui va nous habiter ce soir, ça touche la vie des gens. Que vous inspire à la fois et cette situation et l'argumentation des uns et des autres?
Je suis perplexe en entendant Monsieur Calva. Je compatis à sa peine, mais écoutez, il faut de la rigueur dans la gestion de la chose publique. On ne peut pas prétendre avoir une entreprise saine si on a un personnel qui est soit peu qualifié, moins outillé pour rencontrer justement les défis auxquels doit faire face l'entreprise. Ici, je parle du FPI. Comme entreprise, je sais que c'est un établissement. On va pas entrer dans les les subtilités. Je la considère comme une entreprise qui doit travailler à bâtir un tissu industriel en République démocratique du Congo. Et pour ça, il faut avoir des ressources humaines qualifiées. Et donc, c'était un secret de polichinelle. Au FPI, il a régné un très grand désordre. Donc voilà, les gens ont été promus alors que ils ne devaient pas l'être. Des gens ont été embauchés sur base de liens politiques, de liens familiaux et voilà, du copinage.
Donc quand le directeur André parle des gens qui se sont retrouvés sans documents pouvant justifier leur présence à tel poste ou à tel autre, il peut avoir raison.
Il ne peut pas avoir raison, il a raison. Et cette situation n'est pas le propre du FPI, hélas. C'est une situation qui se retrouve à la SENA, c'est une situation qui se retrouve à l'INSS. Dans plusieurs entreprises publiques, c'est une situation qui se retrouve. Mais il faut avoir quand même des managers qui ont assez de courage pour taper un coup de pied dans la fourmilière afin justement de restructurer l'entreprise pour atteindre les objectifs. On ne peut pas atteindre des objectifs donnés après le rapport de la commission d'enquête parlementaire qui a fait état de tout ce qu'il y avait comme désordre. Les désordres décrits aujourd'hui par le directeur à ma gauche, Elali, ont été déjà décriés par un rapport parlementaire. Et donc, par rapport à ça, il faut quand même qu'on ait du courage. C'est un courage qui manque beaucoup aux dirigeants congolais. Le courage de réformer.
Mais Israël Moutala, je crois que la raison voudrait que là où il y a du désordre, qu'on puisse mettre de l'ordre. Mais la manière dont la situation se présente au FPI, pensez-vous qu'on a pris la bonne direction pour faire les choses correctement?
Écoutez, si la décision du FPI, de l'actuel management du FPI, c'est de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, nous sommes dans la bonne direction. Si la commission s'est réunie à écouter les uns et les autres, il y a eu, voilà, chacun a fait valoir ses moyens de défense, je pense qu'on est dans le bon. Le problème, je sais que ça fait mal.
Mais on ne peut pas évoquer les droits acquis par rapport à la corruption. Tu as été engagé sur face d'un faux diplôme, tu n'as même pas à prétendre d'un quelconque droit acquis. Au contraire, tu même peux être même poursuivi pénalement. Et donc, je pense que il faut être sérieux à un moment. Le pays est ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il y a eu des gens peu scrupuleux. Mais c'est pas dire que les gens qui ont précédé le comité actuel ont tout faux sur toute la ligne. Non, ma femme. Ils ont fait des bonnes choses et voilà. On ne peut même pas aussi aujourd'hui justement commencer à balancer des histoires que on a construit tel immeuble. C'est pas ça la maladie des Congolais. C'est de voir est-ce que l'entreprise par rapport à son objet social l'a-t-elle atteint oui ou non, dans quelle proportion. Alors, a-t-elle des états financiers sains. C'est ça. Ce n'est pas construire un immeuble. Un immeuble, ce n'est pas le signe de la vitalité d'une entreprise. C'est de regarder par exemple le taux d'instruction de la RDC par rapport. Vous avez collecté combien, vous avez affecté combien. Ça a produit combien? Voilà, il y a des critères.
Alors, le Parlement avait recommandé qu'on puisse mettre de l'ordre dans le fonctionnement du FPI, mais est-ce que, selon les informations que vous avez certainement en tant qu'analyste économique, est-ce qu'il était prévu des licenciements et des licenciements de cette hauteur ici? 20-30 personnes, c'est quand même assez important.
Écoutez, vous voulez, je vous donne un exemple. Vous avez comparé le FPI à un avion de ligne. Alors cet avion de ligne, au lieu d'avoir deux pilotes à bord, et voilà, vous avez par exemple deux infirmiers. Vous pensez que cet avion va non, voilà, il peut être neuf, il peut être en bon état, mais s'il n'y a pas le personnel qualifié, il ne va pas jamais atteindre sa destination finale. Il va crasher. Et donc voilà, il faut prendre des décisions courageuse. Et ici, les premières décisions qui passent, c'est d'abord la restructuration du personnel. Il faut aussi la restructuration des missions. Il faut absolument... Le défi, c'est quoi? C'est faire en sorte que les recettes ne soient pas inférieures aux charges. Il faut équilibrer et dégager justement une santé financière pour permettre le financement. On vous a dit qu'ils ont hérité d'une ordre de 160 millions de dollars. Bon, c'est pas, on va pas accabler Mbengele. C'est sur 25 ans du FPI. Donc je suis tout à fait mesuré dans mes propos, hein, pour dire que, parce que je sais que Minga a parlé tout à l'heure de la chasse aux sorcières. Donc, en tout cas, je pense pas. Toute raison gardée, voilà. Je suis en train de nuancer les choses.
Mais alors, quelle explication pouvez-vous alors donner à la même situation lorsque on engage une centaine d'autres personnes, pendant qu'on vient de révoquer une trentaine, on a engagé environ une centaine d'autres personnes et on a même engagé à des grades de directeur.
Non, je pense que c'est pas ça. Parce que parmi les, on a dit qu'on a rétrogradé une quarantaine, mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on a promu une vingtaine. Mais les promus, c'est des anciens, c'est les fils maison. Et donc, parmi la centaine qu'on dit avoir engagé, bon, je pense que...
Ça ne serait pas vrai.
Le directeur l'a dit, c'est plutôt des régularisations. Il y avait une soixantaine à peu près qui était là, mais qui n'avait pas un bon statut et tout ça. On a vu s'ils étaient récupérables ou pas. Au bout d'un certain, on a récupéré. Et donc, les autres, c'est comme on l'a dit, c'est des personnels d'appoint qui arrivent avec le nouveau conseil d'administration et le comité de gestion. Donc, on n'est pas... je pense pas qu'ils soient pas assez bêtes aujourd'hui. Ils savent très bien que c'est des mesures courageuses pour prêter les flancs en engageant l'appel. Là, ils ne sont pas si stupides que ça. Voilà. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça le problème. La situation du FPI, comme je le dis, allez voir l'audit au ministère du portefeuille. C'est les mêmes problèmes à l'ONATRA. Les conventions collectives sont rigides. Et voilà, on vous dit que voilà, si un parent meurt, on engage son fils, qu'il ait les qualifications ou pas. Et donc, on ne peut pas se développer, on ne peut pas rendre des entreprises viables et compétitives sans personnel qualifié. Et donc, c'est basique. Et donc, si un manager vient, il s'attaque à ce problème-là, parmi d'autres problèmes, parce qu'on vous a dit aussi le problème du cadre institutionnel, quelle mission et tout ça. On a dit, on a renforcé les capacités, mais il y a des gens dont les capacités ne sont pas renforçables. Donc voilà, parce que pour renforcer les capacités de quelqu'un, il faut qu'il soit en capacité d'être renforcé. Or, vous avez trouvé des agents, comme ils n'ont pas de diplôme, ils sont faibles. Et donc, ça impacte le rendement de l'entreprise. Donc, il faut absolument soigner le recrutement. Il faut aussi mettre fin, justement, aux promotions fantaisistes, parce que les agents les plus méritants sont brimés. Donc, il faudrait que les processus d'avancement en grade soient clairs, limpides, et qu'ils soient basés sur la méritocratie. Et donc, je pense que c'est des trucs basiques en ressources humaines, dans la gestion des ressources humaines. Et donc, si quelqu'un, un manager vient et que avec le concours d'ailleurs d'un cabinet d'audit, d'un cabinet de gestion des ressources humaines qui a fait ce travail là-bas. Ils ont fait le travail, ils ont remis les conclusions à qui de droit. Voilà, on a soumis ça au conseil d'administration. La tutelle, le ministère de l'Industrie a jeté un coup d'œil. On a dit que c'était clean. Donc je pense que on s'est entouré de toutes les précautions d'usage pour ne pas vexer ou blesser les uns et les autres. Mais je comprends que ça puisse faire mal, mais on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs.
Directeur à la supervision des projets au FPI, André Ilali Lukoji, s'il vous plaît, Calvin, vous aurez cette émission est organisée, vous aurez la parole. Directeur André Ilali, cette émission est aussi organisée avec le concours des auditeurs qui partagent leurs commentaires avec nos invités. Je vous invite à écouter ce commentaire d'un de nos auditeurs et d'y réagir aussitôt après. On écoute.
Moi, c'est Pepe Lisungi Botomoito. Je vous appelle depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Toutes ces initiatives n'est qu'une distraction avec une structure qui a perdu le contrôle de ses objectifs, qui la politisation et l'octroi des fonds aux opérateurs économiques et politiciens et que ces fonds ne sont pas remboursés plus de 5 ans après, si le poids politique de ces derniers, malgré les démarches qui ont été faites, ça est là pour rembourser ces fonds. Je me dis qu'on assiste plutôt à la faillite des FPI et non à la réforme. Quelle réforme au stade actuel où tout est critique dans le pays?
Directeur André Ilali, l'auditeur pense que c'est tout simplement une mascarade.
Bon, je lui réponds tout de suite parce que je suis un peu attristé parce que je me dis c'est la réforme elle est globale. Le point du personnel n'est qu'un point dans le point de la réforme. La réforme a concerné la gouvernance, les recouvrements des prêts et des créances. Elle a concerné le système d'information. Elle a concerné l'éthique. Elle se passe dans tout un ensemble qui doit être cohérent et partir d'un même pied. Et je voudrais rappeler à notre collègue qu'il n'oublie pas que dans le cadre de cette révisitation, il y a des collègues qui ont été confirmés, d'autres qui ont eu des avancements, d'autres une régularisation. Les pauvres, on n'en parle pas d'eux. On parle plutôt, plus on monte l'accent sur ceux qui malheureusement ont été victimes de la décision. La loi est dure. Dans des réformes, il y a les œufs qu'on doit casser. Il y a les victimes de la réforme. Mais il faut rester volontariste. Je dis, Donna, il est temps qu'on passe à une autre dimension des gestions des entreprises publiques. Il faut qu'on passe à un temps où on a des objectifs visés, où nous devons entrer réellement dans le cercle des grandes nations. Et la RDC a la chance d'avoir une IFD qu'on peut soutenir dans cet objectif-là. Donc je dis à cet auditeur, je le rassure, c'est que la réforme a constitué aussi sur les recouvrements. Nous nous sommes aussi attaqués avec des stratégies pour recouvrer les fonds que nous avons prêtés. Nous avons catégorisé nos clients. Même quand on évoque la question politique, parce qu'elle a été aussi d'actualité, je voudrais rappeler que si vous regardez le portefeuille du FPI, les politiques sont aujourd'hui constitués à peu près 10% de ce que nous avons financé. Mmh. Mais même le regard à leur attention a changé. C'est-à-dire que le paradigme, c'est que quand un acteur politique peut venir au FPI chercher un financement, mais qu'il vienne avec le statut d'opérateur économique. Et nous devons nous-mêmes déjà avoir le regard sur cet opérateur de cette manière-là et répondre aux critères que nous avons nouvellement établis dans cette matière-là.
Alors, puisque ces réformes lancent aussi au même moment des recouvrements et que vous avez entendu l'auditeur de tout à l'heure mentionner des allégations qui ont mis en avant le fait que le FPI a eu à subventionner ou à prêter de l'argent à des privés, à quelques autorités, et pour certains cas, ça a été documenté. Est-ce que dans le cadre de ce recouvrement,
la commission l'a relevé, ce n'est un secret pour personne.
Est-ce que vous allez les récupérer?
Oui, nous avons les récupérés. C'est-à-dire que
expliquez-nous un peu comment vous allez faire pour récupérer chez certains politiciens, par exemple.
Pour tout opérateur économique, je ne dis pas politicien, je le considère en tant qu'opérateur économique, ils ont donné des garanties, les prêts sont gagés. Et donc, nous allons exécuter les garanties. Et pour ce faire, il y a une démarche qui a été entamée, qui est la loi sur le privilège du Trésor, qui aujourd'hui est en examen au niveau de l'Assemblée nationale, qui est la structure qui nous a auditionnés pour voir si nous étions en mesure de suivre les recommandations qui ont été faites. Et le vœu de notre cœur, c'est que cette loi passe pour que nous puissions avoir accès dans une période donnée à réaliser les garanties sans problème, conformément à la loi.
Calvin Minga, c'est votre tour maintenant. Regardez bien le chrono, hein. La parole est également partagée. Calvin Minga, à votre tour, nous vous invitons à écouter cet auditeur. Ensuite, nous allons écouter votre réaction.
Abamungu Valibouza depuis Bukavu. Il est tout à fait normal et naturel que l'agent des services publics soit révoqué. Mais le thème de cette révocation est-il dire à l'opinion publique si ces agents-là sont révoqués pour détournement des fonds alliés à cette institution ou quoi? On a toujours révoqué, on a toujours révoqué, on a toujours engagé, mais rien ne change. À quoi sert cette institution? Sinon à enrichir les plus riches et appauvrir les plus pauvres. Le peuple congolais n'a jamais bénéficié de l'argent des FPI. Il n'y a que les plus riches, les aisés, les honorables et ministres qui bénéficient de cet argent.
Alors, Calvin Minga, de manière très claire, hein, vu qu'on n'a pas tout le temps pour entrer dans les détails, est-ce que parmi la vingtaine ou la trentaine de personnes qui sont concernées par des révocations ou des rétrogradations, est-ce qu'il y a des gens qui ont les documents, qui ont les titres requis, mais qui ont été quand même pénalisés?
Merci pour cette question. D'abord, je vous dis que je suis en face des co-débatteurs qui ne font pas allusion à la loi. C'est la bonne foi, c'est le sentiment, c'est ce qui nous amène à comprendre qu'il y a des sentiments dans des réformes qu'on derrière lesquelles on se cache. Parce qu'il fallait qu'on nous amène des dispositions. Je dis, je prends mon cas. Je prends mon cas. D'abord, dans le cas de la fausseté. Je suis licencié en droit. L'FPI ne m'a jamais reproché que j'étais chef de division dans une entreprise de recettes fiscales et dans une organisation de recettes fiscales et parafiscales à l'ancienne province de Kassai Occidental. J'ai l'ancienneté et je suis défenseur judiciaire pendant 7 ans. Alors, l'FPI a tenu compte de ça, il m'a engagé. Aujourd'hui, j'ai au moins 5 cotations de très bons, plus une cotation excellence, cotée par les directeurs qui ne sont pas de ma province. Aujourd'hui, vous venez sans toutefois d'abord m'évaluer. Je vous dis d'abord, les remises et reprises de l'ancien comité a eu lieu en novembre. Et en janvier, moi j'ai déjà la lettre de mutation pour m'enlever de mon poste. En vertu de quoi le nouveau comité pouvait m'évaluer? Deuxièmement, à ce qui concerne, quand vous, le problème de droit, si la forme fait défaut, les fonds tombent. Ce qui fait que l'FPI va répondre totalement en justice et il va perdre beaucoup d'argent. Il y a des gens qu'on a révoqués sans que ces gens-là soient entendus. Parce que l'article 78 de la convention collective dit aucun agent ne peut faire l'objet d'une sanction s'il n'a pas été entendu. Et moi, par exemple, on m'amène, on me dit, tu passes en commission de discipline. Pour l'invitation n'indique même pas les motifs. Je passe. Déjà, j'ai des rumeurs. On dit non, il faut chercher des faux motifs pour que ces garçons partent. On a enregistré un assistant du DG. C'est pourquoi ça, je me réserve, c'est pour la justice. Vous comprenez déjà? Et on m'appelle. Je vais, j'arrive à la commission. La commission vous dit, on ne connaît même pas de quoi on va te reprocher. On ne sait pas. Nous allons d'abord faire un rapport au DG. Que le DG nous disent de quoi on vous reproche pour vous entendre. Je rentre. Et après demain, je reçois la lettre de licenciement sans préavis. Je cours vite aux membres de la commission et me disent, mais le DG a pris sa décision, il nous a dit qu'il a des institutions politiques. Et il me donne le PV, le rapport de la commission qui dit le contraire de ce qu'il a écrit dans la lettre de licenciement. Il dit, il a empêché toute audition.
Alors, Calvin Minga,
préciser, je vais même
30 secondes pour conclure.
Oui, je comprends que
30 secondes parce que vous avez l'avantage
de la parole. Je vérifie, il y a pas la concordance entre les rapports et la décision qu'il a prise. Si le directeur peut me dire que c'est ça la procédure. Quand la procédure fait défaut, il faut montrer. Je sais que le nouveau comité est à sa première expérience de gérer l'entreprise. Aujourd'hui, quand vous gérez l'entreprise, vous trouvez des textes. Il faut commencer par changer ça.
Merci.
Comment allez-vous faire la réforme?
Merci.
J'aimerais que vous...
Vous aurez une dernière parole à la conclusion de cette émission.
Un dossier qui doit aller en justice. Qu'on ne vous fasse pas de commentaires comme notre analyste. lui fait des analyses de sa bonne foi.
Israël,
il ne sait pas qu'est-ce que, il vous dit comment lui voit.
Israël Moutala, s'il vous plaît, la parole à l'analyste. Israël Moutala, à votre tour, le commentaire de cet auditeur. On écoute l'auditeur, ensuite vous réagissez.
Docteur Passi Kenan, à partir de Kananga au Kasaï central. Je pense que cet argent dilapidé par le FPI était consacré au peuple congolais. Mais malheureusement, cet argent a été distribué dans des familles politiques. Ce sont des partis politiques et des dirigeants de ces partis qui s'en sont préoccupés de cet argent à tel point que le peuple congolais n'a rien reçu. Nous pensons que le fait de licencier certains agents de cette entreprise de l'État ne reflète rien car ce sont les mêmes autorités des partis politiques qui ont influencé cette mesure. C'est pourquoi nous, peuple congolais, nous pensons que la vraie solution serait de poursuivre ces individus qui ont pris cet argent sans remboursement.
Israël Moutala, il faut peut-être réformer, remettre de l'ordre dans la maison, mais est-ce que dans cette action, il n'y a pas eu des innocents qui ont été peut-être malencontreusement sanctionnés?
C'est peut-être possible, mais je crois pas parce que, enfin, moi je vois, je comprends la peine de Monsieur Minga. J'ai eu à faire face à de telles décisions dans ma vie et je sais ce qui m'en coûte. Donc il y a quelques mois, j'ai congédié ma bonne, j'ai congédié mon chauffeur. C'était des décisions qui m'ont affecté parce que je sais que ma bonne et mon chauffeur, c'était des pères de famille. Mais quand tu n'arrives pas à prendre de telles décisions dans ta vie, tu ne seras bon à rien. À un moment, il faut prendre des décisions difficiles, courageuses, pour telle raison. On ne fait pas dans le sentiment. Je connais la mentalité des entreprises publiques. Je les fréquente, j'ai des amis, j'ai de la famille. J'ai des amis au FPI, avec qui on était à l'université de Kinshasa, faculté de l'économie, faculté de droit. J'ai des amis au FPI, je connais le FPI, pas aujourd'hui. Je le connais depuis de longues années. Je connais l'ONATRA, je connais la SNCZ, je connais la GECAMINE. Non, je connais les réalités. Je sais comment est-ce qu'on engage. Je connais les copinages politiques. Je sais ce que se passe dans ce pays.
Donc apparemment, pour cette situation, le FPI Absolument. Est plutôt bien engagé. Absolument. Il n'y a pas beaucoup de casse.
Donc il faut d'abord déjà que les autres entreprises en prennent de la graine. Ils doivent suivre cet exemple. Donc allez au Copirep. Regardez le rapport du Copirep sur les audits sociaux qu'on a fait dans les entreprises publiques. Pareil. Pléthore des agents incompétents pour la plupart et tout ça. Donc il fallait recadrer.
André Ilali, notre mission est terminée en 15 secondes déjà. en 15 secondes, est-ce que vous pouvez rassurer l'opinion que
non,
dans cette action,
je confirme que c'est une réforme.
Il n'y a pas de règlement de compte.
Il n'y a pas d'éléments de réponse.
Et que peut-être pour le cas de Calvin Minga, il y a eu une erreur.
Je voudrais rappeler à Calvin que quand même, l'occasion lui a été donnée de passer devant le conseil d'administration. Donc, je m'étonne qu'il parle ainsi, mais moi, je l'encourage parce qu'il y a des procédures. Je crois qu'il y a des procédures de recours qui sont disposées et bon, il faut passer par les procédures puisqu'on parle de procédures, de respecter les règles.
Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. Malheureusement, le temps nous imparti est arrivé à sa fin. Jean-Claude Nsiala à la technique, Guy Maté à la réalisation, Dona Madimba à la présentation. C'était un plaisir de vous avoir ce soir. D'autres occasions se présenteront pour des débats comme celui-ci.